France Culture. Affaires culturelles. Arnaud Laporte.
Ce soir, je reçois Olivier Mosset. Vers 19h45, le son du jour, Punk 2 de Paul Colomb. Vers 19h50, le grand tour de Marie Sorbier nous fera visiter ce soir la dernière exposition en date du Centre Pompidou-Metz qui est consacrée au psychanalyste Jacques Lacan. Le tout est réalisé par Alexandre Fougeron avec Anthony Thomasson à la prise de son. Bonsoir Olivier Mosset.
Bonsoir.
On peut voir une exposition de vos œuvres à la galerie Les Filles du Calvaire à Paris dans son nouvel espace, celui de la rue Chapon, jusqu'au 24 février. Vous avez proposé à Sarina Basta de programmer, de curater, dit-on en mauvais français, une autre exposition, Sidestep Boogie Woogie, c'est dans l'espace, on va dire, historique de la galerie, rue des Filles du Calvaire à Paris. Nous parlerons bien sûr de ces actualités en disant et en rappelant, comme toujours, qu'il ne faut jamais hésiter à entrer dans les galeries. C'est libre, c'est gratuit, c'est accueillant. C'est une façon merveilleuse de rencontrer l'art. J'ai profité évidemment de votre venue dans cette émission pour partager avec nos auditrices et auditeurs quelques moments importants de votre parcours, de ce qui vous a mené vers l'art, la façon dont vous le pratiquez, Olivier Mosset. Pour commencer, peut-être une scène primitive, puisqu'on parlait de Jacques Lacan, ou on va en parler tout à l'heure. Votre mère vous emmène au cinéma voir le mystère Picasso d'Henri-Georges Clouzot.
On donnerait cher pour savoir ce qui s'est passé dans la tête de Rimbaud pendant qu'il écrivait Le bateau ivre. Dans la tête de Mozart pendant qu'il composait la symphonie Jupiter. Pour connaître ce mécanisme secret qui guide le créateur dans son aventure périlleuse. Grâce à Dieu, ce qui est impossible pour la poésie et la musique est réalisable en peinture. Pour savoir ce qui se passe dans la tête d'un peintre, il suffit de suivre sa main. Vous allez voir, c'est une drôle d'aventure que celle du peintre. Il marche, il glisse en équilibre sur la corde raide. Une courbe l'entraîne à droite, une tache l'entraîne à gauche. S'il rate son rétablissement, tout bascule, tout est perdu. Le peintre avance en tâtonnant comme un aveugle dans l'obscurité de la toile blanche. Et la lumière qui naît peu à peu, c'est le peintre qui la crée paradoxalement en accumulant les noirs. Pour la première fois, ce drame quotidien et confidentiel de l'aveugle de génie va se jouer en public, puisque Pablo Picasso a accepté de le vivre aujourd'hui, devant vous, avec vous.
C'est le début du mystère Picasso. Alors on verra que si votre pratique est très loin de celle de Pablo Picasso, la question du geste vous importe ô combien. Olivier Mosset, vous gardez quel souvenir de ce film ?
Vous avez des informations. Moi, j'ai un peu tendance à oublier les choses. Mais...
Ah bah, je vais vous en rappeler quelques-unes.
Voilà, c'est ça. Non, en effet, mes parents ne s'intéressaient pas particulièrement à l'art, mais je ne sais pas pourquoi ma mère m'a emmené, petit garçon.
Une douzaine d'années, voilà, si je compte bien.
Oui. Voir ce film. Et c'est, évidemment, c'est rétrospectivement qu'on se dit, mais au fond, il y a eu ça. Et non, le vrai début, c'est parce que j'avais vu une exposition à la Kunsthalle de Berne avec Rauschenberg, Jones, il y avait Stankiewicz et Al Leslie. Et d'ailleurs, il y avait une autre exposition, parce que j'ai eu la chance d'exposer à la Kunsthalle de Berne plus tard. Et je sais qu'il y avait une autre exposition Picabia au même moment, mais j'ai zappé là-dessus. Alors que Rauschenberg, il y avait sa chèvre avec un pneu autour du ventre et un peu de peinture sur le nez. Et ça, pour des gens qui ne s'intéressaient pas forcément à l'art, je me suis dit, mais c'est incroyable, on peut tout faire.
Alors cette exposition-là, je crois que vous aviez 17, 18 ans.
J'habitais plus à Berne, mais j'étais venu voir ça.
Ouais. Ce goût-là, pourquoi aller voir cette exposition ? Vous aviez quelle sensibilité ou sensibilité sensibilisation à l'art, Olivier Mosset?
Je me souviens plus très bien. Quelqu'un a dû m'en parler. Parce qu'en fait, quand j'étais en Suisse, on dit gymnase, mais ça correspond au lycée, je m'intéressais au fond à la poésie, un peu, enfin, je m'aimais à l'armée, mais aussi Alfred Jarry, enfin, des choses comme ça. Et je me souviens plus quelles sont les conditions qui m'ont amené à voir cette exposition, mais là, je me rendais compte qu'il y avait quelque chose qui se passait. Donc, et surtout, Rauschenberg et Jasper Johns, je pense. Oui.
Alors, quand même, quelques temps plus tard, pas si longtemps après, en 63, 18 ans, vous allez frapper à la porte, ou sonner, hein, je ne sais pas si vous avez une sonnette, à la porte de l'atelier de Jean Tinguely. Qu'est-ce que vous espériez, qu'est-ce que vous attendiez en allant toquer à la porte?
Non, il y a eu un concours de circonstances. C'est-à-dire que je suis parti de la maison, j'ai fugué. Je pense que j'en avais un peu marre du gymnase. Et enfin, c'était un peu dramatique parce que mes parents, il y a une situation un peu difficile. Et en fait, je suis arrivé à la gare de Lyon et j'ai regardé dans le bottin du téléphone sous artiste, sous la profession artiste.
Ah ouais.
Voilà, c'est comme ça que ça s'est passé. Et j'ai vu le nom de Tinguely et j'avais vu, ou je connaissais en tout cas, j'avais entendu parler de lui en tout cas. Et l'adresse était Impasse Ronsin, qui était un endroit assez intéressant parce que c'était l'endroit où il y avait plusieurs ateliers. Et il y avait l'atelier de Brancusi qui manquait, parce qu'il l'avait donné au Musée d'Art Moderne. Et j'arrive là, comme ça, un peu perdu, je suppose. Et Tinguely n'était pas là, il était au Japon, je ne sais pas quoi. Enfin, je demande à quelqu'un ce qu'il est. Et il m'a dit non, il n'est pas là. Et il y avait un artiste qui s'appelait James Metcalf, qui était un artiste américain, qui faisait un truc un peu abstrait, mais qui était copain avec les nouveaux réalistes et tout ça. Et je pense que je ne sais pas, je devais avoir l'air un peu perdu. Et il m'a dit, mais je ne sais pas, si vous voulez rester, si vous me donnez un coup de main, vous pouvez dormir dans mon atelier, parce qu'il vivait ailleurs.
Et vous avez attendu le retour de Tinguely.
Tinguely est revenu. je me souviens plus très bien, mais Tinguely était pas si connu, enfin il est devenu un peu plus connu après. Donc,
là on est en 63.
Oui, c'est 63 ça, oui. Et il m'a dit oui, je sais pas, puis on allait chercher de la ferraille, quoi.
Ouais. Vous devenez une sorte d'assistant, bien sûr. Ouais. Alors, vous repartez en Suisse pour passer.
Après, je suis resté. Ouais.
Maturité fédérale.
Voilà, je suis resté 6 mois. Puis la situation avec ma famille n'était pas un peu difficile.
Et là, vous êtes revenu complètement à Paris, en 65.
Oui. Et mon père est décédé entre-temps, et à ce moment-là, il avait une assurance. Si je continuais mes études, je touchais quelque chose, qui était, à mon avis, plus d'argent en France qu'en Suisse. Et je me suis en fait inscrit à l'école du Louvre pour cette histoire.
Et puis, effectivement, vous continuez à ce moment-là à assister.
J'ai revu Jean.
Jean Tinguely.
Oui.
Et avant de parler de lui, peut-être de l'empreinte qu'il a laissée en vous, Olivier Mosset, écoutez cette courte archive.
Pour moi, je ne suis pas nécessairement artiste. C'est la société autour de moi qui me donne une position comme artiste. Au lieu de me mettre dans un asile d'aliénés, elle me met artiste. Elle me flanque dans un musée, ça c'est la même chose. Au lieu de me défendre de travailler, elle me paye. Ça vient en même, c'est la même chose. C'est une forme d'annuler les choses aussi. D'être dans un musée, on est automatiquement annulé quand on est dans le musée. C'est une annulation comme une autre. D'être piédestalifié, c'est une catastrophe. D'avoir du succès, c'est une tragédie. Mais en même temps, je suis d'accord qu'on ne peut rien faire sans rien. Et je suis pour et contre. J'ai tout fait pour aller dans les galeries, j'ai tout fait pour aller dans les musées. Et dès que j'étais dedans, je ruais dans les brancards et j'essayais de faire tomber les cerises. Mais en fait, on n'a pas le choix d'être artiste. Ou on l'est ou on l'est pas. Moi, je sais pas, je ne pourrais pas te dire si je suis un artiste.
Entendre ça dans la bouche de Jean Tinguely, et on va voir la suite de votre parcours et de votre rapport à l'art, Olivier Mosset, on se dit quand même qu'il y a quelque chose qui a infusé en vous.
J'avais jamais entendu ça, mais en plus, on parlait passablement, et il m'a fait lire Kropotkin, Bakounine, Stirner, ou des choses comme ça, enfin il me parlait de ça, on allait ramasser de la ferraille en gros, je suis persuadé. Oui alors, enfin...
Vous êtes persuadé?
Non, parce qu'à un moment donné, si on voit la peinture que j'ai pu faire juste après, à un moment, j'avais l'impression que je réagissais contre le nouveau réalisme, surtout que j'ai travaillé avec Spoerry après aussi. Mais c'est plus complexe que ça, parce que tout à coup, je me suis dit, mais Tinguely, les premiers tableaux qui bougeaient, c'était des Meta Malevich, c'était des abstractions. C'est pas si simple.
Rien n'est simple. En tout cas, le rapport à l'art et le fait que dès qu'on rentre dans le musée, on a envie d'en sortir, C'est quelque chose que vous allez vite pratiquer, on va le voir. Mais vous commencez, effectivement, vous êtes aussi assistant de Neige Poiré, mais vous commencez très tôt, Olivier Mosset, à peindre vos premières œuvres. Est-ce que vous savez, alors quoi, vous avez une vingtaine d'années, que vous êtes et que vous resterez artiste?
Je crois que je ne me suis pas posé la question. Enfin, il y avait l'idée de vouloir faire de la peinture. Ça, c'est... Oui, on a toujours un... Il y a une lecture rétrospective, je dirais. Souvent, on ne sait pas ce qu'on fait, mais c'est après coup, on se dit « Ah ben, ça devait être ça ». Et il y avait cette... Enfin, je sais que... Mais justement, si on parlait de l'exposition des Filles du Calvaire, en fait, je me souviens que... Oui, parce que donc je suis reparti en Suisse, on m'a mis dans une école privée où je n'allais pas, j'allais au cinéma, mais Jean Tinguely est revenu après, il y a eu une exposition en 64 à Lausanne, qui était une exposition nationale suisse. Et il a fait une grosse machine. C'est là qu'en Suisse, il est devenu vraiment connu. Enfin, un peu comme Picasso, les gens le reconnaissaient dans la rue. Et il y avait aussi une exposition à ce moment-là de l'art dans les collections suisses. Et je me souviens qu'il y avait, donc, je crois que l'affiche, c'était un Picasso, un arlequin de Picasso, mais il y avait des Renoir, des Bonnard, des Monet, des choses comme ça. Et dans cette exposition, il y avait un Mondrian. Et au milieu des Renoir et des Bonnard, eh bien, Mondrian, c'était moderne.
On ne voyait que lui.
Enfin, moi, je l'ai vu, et surtout, je connaissais Mondrian, mais je le connaissais en reproduction. Alors que quand on voit la toile elle-même, c'est peint, c'est quelque chose d'autre. Et je pense aussi, sans que je le sache vraiment, mais c'est quelque chose qui a eu un impact comme ça.
Alors on va voir que l'impact demeure aujourd'hui, effectivement, avec l'une des expositions en cours à la Galerie des Filles du Calvaire, celle de la rue des Calvaires. Mais alors, vos toutes premières œuvres, Olivier Mosset, sont des reliefs blancs. Il s'agit de peindre, mais de peindre au plus à l'os, d'une certaine façon. Puis il y aura des toiles barrées de mots, The End, R.I.P., maintenant que vous êtes plutôt américain. Et puis en 66 apparaît cette forme qui n'a pas de début, qui n'a pas de fin. C'est un cercle noir sur fond blanc. Et 66, Olivier Mosset, c'est aussi l'année où vous rencontrez quelques camarades, Daniel Buren, Michel Parmentier et Neil Toroni, avec lesquels vous allez réaliser ce que vous nommez des manifestations. Alors l'aventure durera un an à peine. À la Biennale de Paris en 67, les quatre de BMPT répondent aux questions d'un journaliste. Alors c'est surtout dans cet extrait Daniel Buren que l'on va entendre.
Nous faisons une peinture qui doit être regardée. Il suffit de la regarder.
Comme toute peinture?
Non. Être regardée en soi, sans commentaire. Pour elle, pour elle-même.
Comme un objet, alors.
Si vous la regardez comme... Si vous arrivez à regarder une pomme comme une pomme, vous pouvez regarder notre peinture comme ce qu'elle est. On est culturellement à la suite de la peinture qui existe. On nie pas la peinture en tant que chose ayant existé. On nie son fondement, l'essence de la peinture.
Alors pourquoi ne faites-vous pas un mur blanc?
Parce qu'un mur blanc, on peut rêver devant un mur blanc. La preuve, c'est que si vous êtes sur votre lit en train de n'avoir rien à faire et juste allongé, qui n'a pas fait l'expérience de voir sur ce mur, vous pouvez vous projeter comme vous voulez.
Oui, on se projette tout ce qu'on veut sur un monochrome.
Vous êtes contre l'art?
Dans sa fonction émolliente, oui.
Ce que l'on fait ne sert à rien. Et c'est le contraire de toute la peinture qui sert à quelque chose.
Alors, qu'est-ce que vous pensez de ces jeunes gens dont vous faisiez partie, Olivier Mosset, oui, il y a quelques années?
Cher Daniel, on était d'accord. Non, Daniel dit que, d'abord, il a raison, c'est que c'était pas un groupe. C'était quatre artistes qui se sont rencontrés. Et donc je crois que oui, il avait vu une toile de moi chez Otto Hahn, qui était critique à l'époque, et c'est comme ça qu'il a voulu me rencontrer.
C'est propos très vindicatif.
Non, parce que voilà, il dit donc que le truc a duré qu'une année, ce qui est vrai, même moins d'une année, 9 mois, mais c'était 9 mois où il y a eu des manifestations.
5. Je crois, oui, manifestation.
Mais en 66, c'est là qu'on se voyait. Je veux dire, on a visité les ateliers des uns des autres. On se voyait presque, je sais pas quoi, 3 fois par semaine. Et c'est là qu'on parlait. Et c'est là que les choses sont mises en place. Donc ça, il n'y a pas eu de résultat concret tout de suite. Mais c'est là que c'est une période qui était intéressante. Et moi, j'ai vu, il y avait une exposition en fait de Parmentier et enfin une exposition de groupe où il y avait Parmentier et Buren chez Fournier. Et donc quand Otto Hahn m'a parlé de lui, je suis allé voir cette exposition et moi-même j'étais impressionné par ce travail-là. Il y avait la possibilité d'une rencontre.
Oui, parce qu'il y a ce moment très, très fertile pour vous et pour vos camarades, avec ce qui est alors beaucoup de refus, hein, on a entendu dans le propos, refus de la sensibilité, refus de la subjectivité, refus de la perfectibilité de la pratique, mais aussi refus de communiquer avec le regardeur. Seule la peinture existe.
Voilà. Mais j'ai l'impression que lui arrivait à formuler ses positions mieux que je n'aurais pu le faire.
Vous étiez le plus jeune de la bande.
Moi, j'étais plus jeune. Et au fond, c'est quand même à travers... Moi, il y a toujours le travail qui se fait de lui-même. Je ne sais pas très bien pourquoi. Et c'est après coup que je me dis, ah ben, c'est de ça qu'il s'agit. Il s'agit d'une critique de la valeur, par exemple. Qu'est-ce qui donne la valeur à une peinture? C'est qu'elle est unique, c'est qu'il y a une sensibilité, c'est qu'elle est signée. Mmh. Et donc, il me semblait que c'était quelque chose qui permettait pas à la peinture d'être ce qu'elle devait être.
Mmh. Qu'est-ce qu'elle doit être, la peinture?
Elle doit être ce qu'elle est, c'est-à-dire de la peinture.
Alors Parmentier, de fait, a rédigé un tract pour dire que le groupe n'existait plus, alors même que le groupe n'avait jamais existé. Mais en tout cas, vous, Olivier Mossé, vous allez continuer à chercher aussi quand même d'autres groupes, on va le voir au fur et à mesure des années. Il y a notamment le groupe Zanzibar, avec Philippe Garrel, Jacques Irénal, Jean-Pierre Quelfond, quelques autres, où il s'agit de faire du cinéma, on va dire, expérimental. Il y a l'engagement politique dans les mouvements militants de gauche. Il y a votre atelier aussi, qui est le QG du club des Hells Angels, que vous avez fondé, après avoir acheté votre première Harley Davidson. Non, c'est pas vous qui l'avez fondé ?
Non.
Le club parisien ?
On fonde pas un club.
L'antenne parisienne ?
J'ai eu des contacts avec les Américains, mais je connaissais des gens ici, mais on fonde pas un club comme ça. Ils se fondent lui-même.
Bon, d'accord. Je retire ce que je viens de dire. Mais en tout cas, ces années-là sont très très riches. Et puis vous avez donc 23 ans quand arrive mai 68. Comment vous vivez cette période ?
Ah ben, oui, ça a été un moment... Enfin, il y avait une situation qui était incroyable. Je ne sais pas, vous en êtes un peu de la même génération. Enfin, moi, je suis peut-être un peu plus âgé, mais il y avait une situation. Et déjà avant... Il y avait un climat général, j'étais même à Nanterre un peu avant, moi je sais pas ce que j'ai cru, mais enfin j'ai cru qu'il y aurait la révolution. Je me suis rendu compte un peu plus tard que les gens veulent pas la révolution, ils veulent des meilleures conditions de vie, ça c'est sûr, mais non, et même enfin c'est pas très sérieux, mais j'ai même dit à un moment donné, Malevitch fait un carré noir en 15, il y a la révolution en 17, je fais un cercle noir en 66, il y a la révolution en 68. Non, c'était pas une révolution, c'était une révolte. Mais là aussi, mais sur le moment, il y avait tous les gens qui l'ont vécu ça s'en souviennent.
Cela étant, on sait ce qu'il y a de tas devenu de la révolution bolchevique. Donc, est-ce que c'est souhaitable? C'est une autre question. Bon, on va pas refaire l'histoire, Olivier Mossé, mais on va plutôt revenir à la peinture, et on a bien vu l'évolution de vos camarades, le danger que la représentation, que la répétition du même pouvait représenter. Alors j'ai eu l'occasion d'en parler avec Daniel Buren dans cette émission il n'y a pas si longtemps. Pour vous, les cercles sont quand même vite devenus signatures, et ce qui était un peu à l'opposé de ce que vous souhaitiez, du propos, ça allait à l'encontre de la démarche. Il fallait changer pour garder l'esprit de votre pratique.
Mais c'est le sentiment que j'ai. Mais ce qui s'est passé aussi, c'est qu'on a fait une exposition avec Buren et Toroni dans un espace qui avait été l'espace de la galerie J, qui était l'espace de la galerie des nouveaux réalistes. Et c'est là que Parmentier a écrit ce texte où il dit que le groupe n'existe plus. Donc quand Daniel dit qu'il n'a jamais existé, j'ai dit, s'il n'existe plus, peut-être que n'importe qui a le droit de dire ce qu'il pense. Mm. Donc c'est quelque chose qui, moi, j'ai même le sentiment qu'au fond, au départ, alors on avait la possibilité d'exposer dans cet endroit et on se demandait ce qu'on allait faire. Et je crois même que c'est Daniel qui a eu cette idée. Parce qu'effectivement, le travail est devenu un peu une signature. C'est-à-dire que les gens reconnaissaient. Donc les bandes verticales, c'était Buren. Les bandes horizontales, Parmentier. Les empreintes de pinceau, Toroni. Le cercle, moi. Donc il y avait une envie de casser cette histoire. Mmh. Et alors on l'a fait, mais c'était fait un peu... Enfin, de mon point de vue, comme un geste. Mmh. Et là, c'était aussi le début de l'art conceptuel. Il y avait un texte qui était accroché. Moi, je me disais, il faut peut-être pas mettre un texte accroché. Enfin, j'ai des rapports difficiles avec le langage dans le rapport à mon travail. Mais, et en effet, quelques années après, je crois que cette histoire de signature... Mais... Enfin, il y avait aussi autre chose. Il y avait le fait qu'une toile avec un cercle, c'est une toile où il y a un fond et il y a quelque chose dessus. Une toile avec des bandes, c'est plus intéressant parce qu'on ne sait pas ce qu'est le fond et le dessin. Ou le, voilà. Donc c'est ça qui vous faut m'intéresser quelque part.
Et ce qui a fait qu'en effet, vous avez, à partir de 73, je crois, commencé à réaliser ces peintures avec ces bandes alternées, gris et blanc. Alors, j'imagine que ça n'a pas dû plaire forcément à Daniel Buren à ce moment-là, mais il y a votre... Alors je reviens, tout se mélange avec la biographie, mais il y a votre engagement politique qui vous rattrape, puisque l'État français décide que votre carte de séjour ne sera pas renouvelée, que vous avez 15 jours pour quitter le territoire. Alors vous passez quand même un petit peu par la Suisse, mais vous décidez de partir pour les États-Unis, on est en 77. Vous inscrivez... encore, je ne sais pas, pour des raisons pratiques, à l'Institut d'Histoire de l'Art de Columbia, mais vous allez aussi retrouver Marcia Afif, avec qui vous veniez de fonder aussi, alors je ne sais pas si on l'a fondé, le groupe Radical Paintings. Qu'est-ce qu'elle avait vu, elle, dans votre travail, passait au monochrome, qui vous a donné envie d'avoir cette connexion?
Alors, d'abord, cette histoire de Columbia, donc je me suis effectivement... C'est-à-dire que quand je suis arrivé en 77, c'était le moment où ce qui se passait à New York, c'était Schnabel, David Saleh, les Italiens, les Allemands, le postmodernisme, néo-expressionnisme.
C'était pas vraiment votre tasse de thé, on va dire.
Et je me suis dit, mais je vais avoir des problèmes, parce que ce qui m'intéresse, c'est quelque chose d'autre, et je vais devoir enseigner. Et j'avais donc le bac suisse, voilà. Et le fait effectivement d'aller à Columbia, ça m'a aussi donné un permis pour pouvoir rester, mais en fait c'était parce que je me suis dit que je devais enseigner. Marcia Afif a écrit un texte, donc je faisais des toiles monochromes, enfin c'est à ce moment-là. Et les toiles monochromes sont arrivées par la pratique elle-même. C'est-à-dire que la première exposition, c'était ces bandes grises sur fond blanc. Il y a une deuxième exposition où il y avait des bandes blanc cassé sur fond blanc, ou alors des bandes blanches sur des fonds beiges ou des trucs comme ça. Et puis, il y a une dernière toile qui était des bandes blanches sur fond blanc. Et j'en ai refait d'ailleurs une autre qui était l'inverse, mais enfin, c'était la même. Et c'est ça qui m'a... Quand je suis arrivé aux États-Unis, je me suis dit non, mais... Je peux peindre la toile d'une couleur, il y a un travail qui est possible. Et j'ai le sentiment qu'au fond, c'est quelque chose qui est difficile à Paris, parce qu'au fond, le monochrome, c'est Yves Klein. Alors qu'aux États-Unis, entre Ad Reinhardt, Bryce Marden, Bob Hyman, il y avait une possibilité. Au fond, le monochrome, à ce moment-là, était quelque chose qui était une affaire de peinture, et pas de geste.
Le monochrome, pour le coup, c'est vraiment un geste de peintre.
Voilà, absolument.
C'est ça qui vous intéresse toujours.
Klein, voilà, c'est ça. C'est une histoire de peinture, absolument. Mais à ce moment, Marcia Afif a écrit un article qui s'appelait Beginning Again, qui était dans ce climat. Et parce qu'il y a aussi une première génération qui était, néo-expressionniste, postmoderne. Il y a une deuxième génération qui était Kissaring, Basquiat, le graffiti. On voyait ces graffitis dans les... Je sais pas quoi, sur les dans le métro. On s'est vu, donc Marcia a écrit cet article, quelqu'un m'a dit, mais il faut la contacter, et je l'ai vue, on a parlé un peu, elle parlait de peintres qui faisaient ce genre de travail, puis je lui ai dit, peut-être qu'on devrait se voir, et c'est comme ça que les choses sont mises en place. Mais rétrospectivement, maintenant, on dit, il y a ce groupe Radical Paintings et tout ça, mais à l'époque, alors, on était sur les marges, c'était pas ce qui se passait. Il y avait au début, le néo-expressionnisme de Schnabel, et après il y avait le East Village qui s'est développé, mais nous, je pense qu'on existait entre nous, et c'est ce qui s'est passé. On a quand même eu une exposition chez Janis, qui a eu effectivement un impact, mais enfin, ça restait marginal.
Mais vous êtes resté groupé, c'est ça qui était important à ce moment-là.
Moi j'étais très content d'avoir des gens avec qui je pouvais parler de sujets...
De la même chose.
De la même chose, absolument.
Après, les cercles, les rayures, les monochromes qui s'imposent, et avant d'en parler peut-être plus en détail et de poursuivre le chemin, on va écouter un de vos choix musicaux, un extrait pour cette émission, Olivier Mossé, la chanson de Jacques Higelin, Le Minimum. Il y a une raison à ce choix, Olivier Mossé.
C'est-à-dire, quand il a fait la chanson, il m'a dit qu'il avait fait une chanson sur moi. Mais Higelin change les paroles chaque fois qu'il joue, donc c'est difficile de reconnaître.
Ouais, mais là, on va prendre la version studio.
juste quand tu démarres, le minimum. Juste ce que tu sais faire. Avant de mettre à pleine gomme, juste ce que tu sais faire, le minimum. Avec moi, que tu te prépares pour n'importe quoi. Avant d'être à pleine gomme, juste ce que tu sais faire.
Cette idée du minimum que chante Jacques Higelin, Olivier Mossé, en pensant à vous, elle est donc passée par les monochromes. Et vous avez fait ensuite, on est dans les années 80, un step backwards, c'est-à-dire un pas en arrière, en réintroduisant de la couleur, de la bille, de la trichromie. Mais c'est toujours l'idée de l'évolution du minimum qui passe par différents modes, mais c'est toujours le même objectif.
Enfin, il y a une dialectique, je crois, à l'intérieur du travail, et il y avait donc une critique de ce que d'autres pouvaient faire, et ensuite il y a une critique de la critique, quelque
oui.
part. Et à un moment donné, oui, de la même manière que les premières toiles... les premières toiles à rayer, il y avait cette répétition. Ensuite, j'ai laissé tomber la répétition. Ensuite, j'ai laissé tomber l'image. Et ensuite, donc, à un moment donné, en fait, au fond, je me souviens d'une toile monochrome près de la fenêtre de l'atelier. Il y avait une ombre dessus. Je me suis dit, c'est drôle parce que c'est une toile qui a une couleur, mais non, il y a deux couleurs. Il y avait du rouge et du rose. Et quelque part, je pense que je devais, je sais pas, en avoir marre, ou je pensais à ça. Et il y a cet aspect, oui, critique de la critique.
Parce qu'il y a quand même un terme que vous employez souvent, Olivier Mossé, c'est celui de sérieux. Alors c'est sérieux, c'est celui de votre pratique. Il faut trouver la bonne couleur, le bon format, mais il s'agit d'être juste. Mais comment savoir que le tableau est juste ?
On peut citer Godard, non ?
Une image juste ou juste une image ?
Voilà. Je considère que la peinture, c'est quelque chose de sérieux. Mais justement, dans le rapport au langage, c'est aussi quelque chose de difficile. Parce que on voit Manet, ou je sais pas, moi je vois quelque chose, je comprends quelque chose. Et en plus, c'est quelque chose qu'on voit quand on voit la toile elle-même. En reproduction, ça marche peut-être pas. C'est pas vraiment quelque chose dont j'ai envie de parler. On voit et on comprend quelque chose, et dans l'art contemporain aussi. On voit Rothko, on se dit, bah oui, il a voulu faire ça. Voilà.
Mais cette justesse, ça sonne presque.
Mais c'est une affaire sérieuse.
Bah, c'est sérieux. Justesse, justice. Si le tableau est juste, il porte aussi en lui une justesse. Politique.
Absolument, je pense ça. C'est-à-dire qu'un tableau est quand même fait à un certain moment, dans un certain temps, et sans illustrer la situation, il pose quand même la question de ses conditions d'existence et même de l'état des choses.
Et puis, si on poursuit la route, littéralement, à la fin des années 90, milieu des années 90, vous installez à Tucson, Arizona. Avant de parler du pourquoi et de l'effet peut-être sur votre pratique, Olivier Mossé, on va écouter un autre de vos choix musicaux. On va l'écouter en entier cette fois-ci. Un morceau d'Al Perry, We Got Cactus. Quelques mots sur Al Perry.
Oui, c'est un ami. Tucson, il y a une scène comme ça, musicale, comme ça, un peu country rock.
Ouais, we got cack, c'est le moins qu'on puisse dire.
Voilà.
On l'écoute.
Spring without flowers is just as remorseful as an autumn denied the colored leaves fall. Winter is long, winter has no snow, and summer is painful when the wind won't blow. Welcome to my home, no fear of pneumonia. This is paradise, it's Tucson, Arizona. Hawaii's got surfing, we got cactus. LA's got Hollywood, we got cactus. New York's got nightlife, we got cactus. Florida's got beaches, we got cactus. We came here for jobs, money's the thing, but no one told us that there's just the Burger King. Minimum wage, maximum slave, the beer's not cheap, and I already gave. I don't know if Tucson is the gateway to heaven, but you're never more than 10 feet from a 7-Eleven. Minnesota's got lakes, we got cactus. Wyoming's got wildlife, we got cactus. Oregon's got pine trees, we got cactus. Georgia's got peaches, we got cactus. You don't have a car, don't worry then. We got a great bus system, just be home by 10. Tucson, oh Tucson, what did I do so wrong in my life to deserve you? I wanna leave, maybe next week. My heart says go, but the rent's so cheap. Hawaii's got surfing, we got cactus. LA's got Hollywood, we got cactus. New York's got nightlife, we got cactus. Florida's got beaches, and we got cactus. And lots of it to stab your butt on.
Pas sûr que l'Office du tourisme de Tucson, Arizona valide la chanson d'Al Perry, mais qui a le mérite d'être extrêmement drôle. Si vous n'avez pas saisi les paroles, essayez de trouver leur traduction. Cela étant, Olivier Mossé, il est quand même toujours intéressant de savoir ce que les lieux produisent sur les artistes. Vous pensez que Tucson a eu quel effet sur votre travail?
Je pense qu'il y a une logique du travail qui n'est pas forcément déterminé, ou alors c'est le contraire. C'est-à-dire que parce qu'on fait un certain travail, on se retrouve
à New York.
Mais New York, j'avais le sentiment que les choses se passaient à New York à l'époque. Bon, aujourd'hui, ça a éclaté, ça se passe partout. Mais bon, il y a des circonstances, j'ai rencontré une dame qui ne voulait pas aller à New York, et surtout, j'avais l'impression que je pouvais être n'importe où. Et j'avais aussi, ça m'amusait de prendre une certaine distance avec à la fois la scène de l'art, New York, le marché et tout ça, et de me retrouver au milieu des cactus. Bon, il y a des coyotes aussi.
Il y a aussi ces grandes routes d'Arizona qui sont quand même propices aux grandes balades en moto.
Voilà, et puis on n'a pas besoin de mettre de casque.
Ah ouais. Ça dépend des États.
Ça dépend des États. Oui.
Je me suis.
Oui, New York et Californie, il faut, mais en Arizona, non.
Vous faites toujours de longues balades en moto, Olivier Mossé?
Je suis un peu vieux, mais j'ai toujours une moto. J'ai fait New York tout seul en moto quand même.
Ah oui, quand même.
J'ai un Sturgis même. Puis j'ai des vieilles motos, donc j'ai cassé, j'ai des appareils, enfin voilà.
Mais la passion est toujours là, des motos?
Oui, j'ai aussi pas forcément envie de parler de ça, mais j'ai un rapport, même un rapport au fond esthétique à la moto. C'est un objet comme ça que je regarde. Et que
Que vous avez montré aussi.
Et que j'ai montré, voilà, à un moment donné. C'est-à-dire qu'il y avait un ami, un type que je connaissais, qui réparait des motos, qui s'appelait Indian Larry, qui construisait des choppers comme ça, et lui customisait des motos. Et à un moment donné, je lui dis, mais... Enfin, c'était des œuvres d'art. Je lui dis, mais tu veux pas exposer dans une galerie à Manhattan en même temps? Enfin, je pourrais mettre des toiles, Lui, oui, pourquoi pas, Mais après, il s'est tué en moto, donc c'était un peu triste, mais sa boutique a continué. Et évidemment, on va là, on parle de lui, et on parle de ça, et puis la dame qui s'en occupait m'a dit, mais si vous voulez le faire, on a ces motos, et on a fait ça. Juste au même moment, ou peut-être après, au Guggenheim, il y a Krenz qui avait fait The Art of Motorcycle, donc il faudrait voir les dates. Puis après, moi, j'avais moi-même... J'étais invité à une exposition, je me suis dit, bah, tiens, on pourrait faire une moto qu'on a fait avec des pièces de droite et de gauche.
Oui, importance de la moto comme objet aussi.
Voilà, c'est ça.
Bon, évidemment, on ne peut pas tout évoquer en 45 minutes. Il aurait fallu parler de votre collection d'art aussi, que vous avez donnée au Musée des Beaux-Arts de la Chaux-de-Fonds. Il faudrait parler de vos œuvres sculpturale, de vos installations, de votre goût pour les collaborations, entre autres, mais ça, on va pouvoir l'évoquer avec l'actualité. En France, on a quand même eu peu d'occasion de voir votre travail en majesté. C'est pourquoi l'exposition en cours à la Galerie des Filles du Calvaire, c'est important. Mais bon, il y a eu le Carré d'Art à Nîmes, c'était en 2004, le magasin à Grenoble en 2009. Le magasin, c'était comme une sorte d'autobiographie.
Mais surtout, c'était une affaire de collection. Enfin, ils m'ont montré les choses que j'avais, que j'ai données à un musée, à d'autres musées.
Mais qu'est-ce qu'il faudra ajouter 15 ans plus tard dans une grande exposition, Olivier Mossé? L'actualiser.
Non, j'ai une rétrospective à Genève, au MAMCO.
Ah ben ça, voilà, c'est toujours là qu'il faut aller, au MAMCO.
Voilà, mais c'était au moment aussi, ça a commencé juste avant le Covid. En fait, j'ai eu l'exposition d'une année, mais elle était ouverte et fermée, parce qu'il y avait une situation un peu particulière. Et c'était fait sans moi, en fait. Mais les gens du MAMCO sont des gens intelligents et ils ont fait des bons choix.
Bon, j'ai raté celle-là alors.
C'était une rétrospective.
Comment est-ce que vous avez conçu, alors pour parler de cette actualité, l'exposition actuellement à voir dans le nouvel espace de la Galerie des Filles du Calvaire, rue Chapon? Comment est-ce que c'est fait déjà le choix des œuvres?
Alors, j'ai eu une exposition à Tucson. Il y a un musée qui s'appelle TMA. Il y a un autre musée qu'on a plus ou moins créé qui s'appelle MoCA, mais il y a un musée qui existait avant qui s'appelle Tucson Museum of Art, et j'ai fait une exposition là-bas personnelle, et c'est des toiles un peu grandes et des choses comme ça, parfois les œuvres se vendent, pas toujours, mais ça arrive, donc il y en a qui étaient partis, il en restait une qui a été donnée, elle a été achetée par un collectionneur qui l'a donnée à un musée, et puis il restait encore une pièce assez grande, et ce nouvel espace des Filles du Calvaire avait un mur qui était assez grand, donc ça m'amusait ils étaient prêts à montrer ça, ils pouvaient le faire, et ils l'ont fait, et puis la galerie elle-même avait des œuvres déjà qu'elle possédait. Ils ont monté ça, quoi.
Monter ça, est-ce que vous aimez justement, vous disiez qu'au MAMCO, c'était pas vous qui aviez choisi, qui avez accroché, mais c'est important pour vous, au-delà de ce qu'on peut voir en ce moment à la Galerie des Filles du Calvaire, mais la question du parcours, la question de l'accrochage, comment vous les concevez?
Alors voilà, au fond, j'ai de la chance, parce qu'en fait, si j'ai envie de faire des choses, je peux les faire. Mais le truc, c'est que si on fait une peinture, au fond, pour la voir, il faut la montrer dans une galerie ou un musée ou un centre d'art. C'est-à-dire qu'il faut qu'elle devienne un objet social. C'est à travers d'autres gens. Alors on me dit, mais tu as envie que les gens les voient? Non, c'est moi qui ai envie de la voir. Mais la manière de la voir, c'est de la montrer dans une situation où les gens la voient. Donc c'est à travers le fait que les gens puissent la voir, fait qu'on puisse la voir. Donc c'est ce qui se passe, quoi. Donc c'est pour ça qu'on montre les choses.
Faute de mieux?
Non, mais on voit quelque chose, puis alors on voit, on dit, mais c'est aussi ce qui nous fait peut-être continuer un peu, parce qu'on voit quelque chose, on dit, oui, bah, c'est ça, bon, bah, oui, ouais. Enfin, voilà.
Et puis dans l'espace, on va dire, historique de la galerie, rue des Filles du Calvaire, vous avez invité donc Sarina Basta à concevoir une exposition en résonance, et on y revient avec Victor et Boogie Woogie, le dernier tableau de Piet Mondrian, qui restait inachevé à sa mort. Vous lui avez donné carte blanche à Sarina Basta, alors, vous êtes intervenu, comment ça s'est passé?
Ça c'est une histoire, c'est pour ça qu'aussi la conjonction des deux expositions m'ont intéressé. J'avais une exposition, bon c'était bien de faire autre chose. Alors j'avais fait des décors, je crois que c'était en 2012, pour un ballet que Marianne Esgillo chorégraphiait. En fait j'étais ami, je l'avais rencontré, et un jour elle m'a dit il faut en parler à Brigitte Lefebvre, qui a dit, mais on a une soirée avec Merce Cunningham, Cage, est-ce qu'elle était intéressée à ce que Marianne, ou, enfin je ne sais pas quels étaient les rapports avec Marianne, mais enfin, il y avait ce projet de faire quelque chose.
Qui était directrice de la danse à l'Opéra de Paris, voilà, Brigitte Lefebvre, à ce moment-là.
Et, oui, moi, parce que déjà, quand j'avais rencontré Marie-Agnès, j'avais dit, moi, je connais rien à la danse. Mais enfin, il y a une tradition de Diaghilev, tout ça, d'art contemporain, et de elle avait fait d'ailleurs des. Je crois qu'elle avait fait un ballet où il y avait déjà des décors.
D'un plasticien?
Non, oui, d'un plasticien. Oui. moi, je deviens un peu âgé, je me souviens plus des choses. Debré. Olivier Debré. Mmh. Alors on fait ce truc. En plus, c'était à l'Opéra, c'est à Garnier, qui est un endroit un peu formidable. Et un jour, en sortant, je me dis, mais il y a une histoire qui dit que Mondrian dansait tout seul dans son atelier. Je me souvenais de ça. Et j'en parle à quelqu'un qui me dit, il faut en parler à Brigitte Lehal, qui est conservatrice à Beaubourg, qui est une spécialiste de style Mondrian. Donc je vais la voir. Enfin, je l'appelle, et puis je peux la voir. Et elle me dit, oui, il y a quelqu'un qui a dit ça. Ce qui est paradoxal, puisque s'il dansait tout seul, je vois pas, voilà. Elle me dit, mais il y a aussi une fondation Mondrian aux États-Unis, et ils ont tous ces disques, et qui sont du boogie-woogie, du foxtrot, et des choses comme ça. Et alors, on en a parlé avec Sarina, et à un moment donné, elle a rencontré des gens qui étaient en Belgique, à Liège, qui avaient des rapports avec l'opéra, qui ont dit, mais on peut le faire. Donc on l'a fait.
Donc on l'a fait. Et c'est à voir, en ce moment, rue des Filles du Calvaire, jusqu'au 24 février, l'exposition se voit.
Il y a une exposition
qui s'appelle Sidestep Boogie Woogie.
Voilà, il y a une exposition autour de Mondrian, et ça c'est Sarina qui a fait ça. Et on a fait une performance aussi avec
Marie-Inès Gillot.
Et Maxime Thomas, qui est un danseur de l'opéra et un musicien.
Et puis, vos œuvres à vous, Olivier Mossé, c'est rue Chapon, toujours dans la galerie des Filles du Calvaire. Entrée libre, n'hésitez pas. Merci d'avoir été notre invité.
Mais c'est moi qui vous remercie.
France Culture. Affaires culturelles. Arnaud Laporte.
Voyageur, forcément, le violoncelliste Paul Collomb avait commencé à improviser avec son violoncelle et la matière électronique lors d'un voyage en Inde il y a une dizaine d'années. Ses expérimentations sonores l'ont conduit à explorer de nouveaux territoires, à construire de nouveaux ponts entre musique de chambre et musique électronique. Et c'est en quintette qu'il offre à l'auditeur le récit de ce parcours dans un premier album, Bleu Quintette, paru récemment sur le label Mirare. Aux côtés des violoncellistes Justine Métral, Frédéric Deville, Michel Pierre et Louis Rode, Paul Collomb multiplie les techniques de l'archet au pizzicato pour faire vibrer cet instrument dans des thématiques que l'on rapprocherait facilement de la musique de film. C'est le cas du très tendu Punk 2, notre son du jour qui épouse une rythmique proprement techno.
Thank you.
C'était Punk 2 de Paul Colomb, extrait dans son album Bleu Quintet.
France Culture, le grand tour, grand tour. Marie Sorbier.
Bonsoir Marie, où êtes-vous ?
Bonsoir Arnaud, je viens d'arriver à Metz dans la région Grand Est au Centre Pompidou qui inaugure son année 2024 avec une exposition sur Jacques Lacan. Alors oui, hein, bien le fameux psychanalyste et philosophe qui a quand même marqué la pensée de son temps. Alors quel est le lien entre cette pensée pas toujours limpide à la première lecture et une exposition d'art? Bien, je crois que c'est ce que nous allons découvrir.
Je suis Bernard Marcadet et je suis co-commissaire avec Marie-Laure Bernadac de l'exposition Lacan, l'exposition quand l'art rencontre la psychanalyse.
Alors Lacan, il est mort il y a environ 40 ans.
Oui, il est mort en 80.
C'est pourtant la première exposition d'envergure, en tout cas sur Lacan. Comment expliquez-vous qu'il ait fallu 40 ans pour construire une exposition ?
Et c'est compliqué parce que sa pensée est réputée compliquée. En fait, c'est étrange qu'il n'y ait pas eu d'exposition à Lacan parce qu'effectivement, Lacan a un rapport à l'art très très privilégié. C'est ce que nous avons voulu montrer dans cette exposition. C'est pas une exposition sur le psychanalyste, c'est sur la relation que Lacan avait avec l'art. C'est ça, le cœur de l'exposition, c'est ça. Donc il y a trois niveaux dans cette exposition. C'est les œuvres que Lacan a regardées et qui sont décisives pour sa pensée. Puisque c'est au cœur de sa pensée qu'il a toujours donné des exemples d'art. Je pense à Holbein, je pense à Velázquez, je pense à Zurbarán, mais aussi bien à Marcel Duchamp, Salvador Dalí, René Magritte.
Oui, dans ses séminaires, on retrouve ces traces-là.
C'est au cœur de sa pensée. Et il a toujours dit que l'art, c'était ce qui effrayait la voie à la psychanalyse. Donc il ne s'agissait pas de faire de psychanalyse des œuvres. Donc il n'y a aucune psychanalyse des œuvres ou une psychanalyse de l'art chez Lacan. C'est au contraire l'art qui informe la psychanalyse. Il a toujours défendu cette idée. C'était l'art qui ouvrait la voie, qui frayait la voie à la psychanalyse. Donc c'est ça que nous avons voulu montrer de manière centrale.
Alors là, c'est la voix de Lacan qui est derrière nous et qui nous accompagne en ce début d'exposition. Est-ce que vous pourriez nous montrer deux ou trois œuvres qui vous semblent les plus emblématiques ?
Nous y allons. Alors, je pense que une œuvre très importante, ça va être, on va aller un peu plus loin. Mais donc, il y a le stade du miroir. Non, ça, c'est important puisqu'il y a le Narcisse du Caravage. Mais bon, Narcisse du Caravage. Alors, ça, ce qui est intéressant dans le Narcisse du Caravage, c'est la position. Alors, Lacan n'a jamais parlé du Caravage. Mais par contre, on l'a surpris à Rome en train d'être dans une position absolument extraordinaire. Les gardiens du musée Barberini l'ont surpris en train de se mettre quasiment presque par terre, en train d'essayer de comprendre comment Narcisse arrivait à se mirer dans le miroir. Et donc, les gardiens étaient effrayés. Ils ont dit, mais qui c'est cette personne ? Ah, mais cette personne, il a été invité par Balthus, il était à la Villa Médicis. C'est un très grand psychanalyste français, il s'appelle Jacques Lacan. Voilà. Alors, je voudrais vraiment vous montrer quelque chose d'important maintenant. C'est ce grand rideau de Latifa et Chakch. Voilà, qui est pour moi sans doute...
Qui prend tout le centre de l'espace de cette pièce, hein, gigantesque.
Au cœur de cette section que nous avons appelée objet petit a, mais qui est une idée de Lacan. Lacan a inventé cette idée d'objet petit a. L'objet petit a, c'est en fait tout ce qui tombe du corps. C'est donc une relation avec la chute. C'est bien sûr le sein, c'est aussi le phallus, c'est aussi la merde, mais c'est aussi pour lui le regard. Et c'est aussi pour lui la voix. Donc il a développé la question de l'objet qui avait été inauguré par Freud. Il l'a vraiment généralisé. Mais cet objet d'un décor de théâtre qui montre un ciel très magrittéen. D'ailleurs, Magritte est très important dans l'exposition. C'est pour ça d'ailleurs que cette œuvre de Latifa est formidable. Parce que c'est un ciel de théâtre, mais qui renvoie à l'histoire de la peinture, à l'histoire du ciel dans la peinture, l'histoire des nuages, etc. Mais c'est un ciel qui tombe. Or, Lacan, d'une certaine manière, a fait de la chute le cœur de sa pensée. C'est-à-dire, non seulement tous les objets qui tombent de notre corps, que ce soit les larmes, que ce soit ça, ce sont des objets finalement décisifs. Ce sont des choses très très importantes. Ce sont des petits détails de notre vie, mais qui sont décisifs. Et d'ailleurs, ce qu'il a dit, on se rapproche, il a dit cette phrase qui, pour nous, est très très importante, la subversion, si elle a existé quelque part et à un moment, n'est pas d'avoir changé le point de virée de ce qui tourne, c'est d'avoir substitué au « ça tourne » un « ça tombe ». Donc de faire de la chute, de quelque chose qui est réputé négatif, quelque chose de positif, je crois que c'est une des entreprises très importantes de la pensée de Lacan.
Et c'est un bon exemple quand on imagine un expo sur Lacan, on se demandait quel type d'objet, quel type d'artefact il pouvait y avoir. Et là, c'est un bel exemple d'un exemple très concret, esthétiquement très présent au milieu de cette exposition.
Alors, c'est une œuvre contemporaine et on va passer une œuvre très très ancienne dont il a parlé. On a la chance de la voir. C'est une œuvre de Zurbaran, donc voilà. C'est donc une œuvre de Zurbaran qui est donc, il ne faut pas que je me trompe, c'est à Chartres, il est au musée des Beaux-Arts de Chartres. C'est une œuvre donc du XVIIe siècle, du début du XVIIe siècle. Donc il montre Sainte Lucie. Et Sainte Lucie, elle est extraordinaire parce que Lacan, c'est dans un séminaire sur l'angoisse qu'il parle de Sainte Lucie, comme il parle d'ailleurs de Sainte Agathe aussi, qui a eu les seins coupés. Elle, c'est les yeux qui ont été arrachés. Mais au lieu d'en faire un portrait de martyr horrible, expressionniste, etc., Zurbaran en fait un sujet extrêmement calme. C'est-à-dire que Lucie a les yeux fermés, évidemment, elle est énucléée, donc, mais il montre pas le côté horrible de l'énucléation. Elle a les yeux...
Elle a l'air très sereine.
Elle a l'air sereine. Et elle, dans son plat, ses yeux sont déposés. Ses yeux sont déposés non pas comme des yeux ou des œufs sur un plat, mais ses yeux, quand vous regardez bien, nous regardent. Mmh. Et ça, c'est toute la position de Lacan, la question du regard. C'est-à-dire, le regard est un dépôt chez Lacan. Et nous-mêmes, d'une certaine manière, nous sommes donc conviés à déposer à notre tour notre regard dans ce tableau.
Il y a beaucoup, beaucoup d'objets dans cette exposition, des artefacts très différents. Des textes, des photographies, des objets, des installations, des néons. D'époques également très différentes. Et toute la scénographie est ponctuée de phrases de Lacan qui éclairent ou proposent un écho aux œuvres qu'on est en train de regarder.
Je suis Gérard Wajmann, je suis psychanalyste et j'étais enseignant au département de psychanalyse de Paris 8.
Et vous avez participé au montage de cette exposition Lacan ?
J'ai participé, j'étais co-commissaire avec les trois autres camarades.
Alors, est-ce que pour des auditrices et auditeurs qui ne connaîtraient pas Lacan, qui ne l'auraient jamais lu, est-ce que l'art est une bonne porte d'entrée pour découvrir sa pensée ?
C'en est une, en tous les cas. C'en est une absolument, parce que Lacan est quelqu'un qui a pris l'art au sérieux. Pour lui, c'était pas un divertissement, c'était pas même une élévation d'âme, contrairement d'ailleurs d'une certaine façon à Freud. Pour Freud, l'art, c'était exaltation de la beauté, etc. Chez Lacan, c'était autre chose, et dont il a fait à chaque fois, dans tous les séminaires qu'il a pu prononcer, tout son enseignement est rempli de références à des œuvres qu'il a traitées finalement comme des concepts de la psychanalyse. Quand il parle des Ménines de Velázquez, c'est pas pour faire le malin et de commenter une œuvre artistique, c'est pour dire les Ménines font partie du discours analytique. C'est tout de même extraordinairement audacieux de faire de Velázquez un grand psychanalyste du XVIIe siècle. Oui. Eh ben, c'était son genre. C'est ce qu'il a fait. Quoi de mieux ? Alors, on peut s'intéresser à Lacan par d'autres voies, par la clinique, parce qu'on est, formé comme psychologue ou comme psychiatre, tout ce qu'on veut. Mais quand on n'a aucune idée de qui est Lacan, découvrir que Lacan avait un rapport à l'art est une manière, en effet, d'entrer tout à fait dans ce qu'était sa pensée. Qu'un artiste soit lacanien, ça, c'est nous qui pouvons le dire, mais ça peut être malgré eux. Ils peuvent très bien dire, mais pas du tout, je m'en balance.
D'ailleurs, dans l'exposition, vous avez choisi quelques œuvres contemporaines qui vous semblent résonner avec la pensée de Lacan, mais là, c'est un choix de commissaire.
C'est un choix de commissaire, mais le problème, vous avez raison, on a fait un choix, bien entendu, puisque toute exposition suppose ça. Mais moi, j'aurais plutôt l'idée que toutes les œuvres sont lacaniennes. Il n'y a pas que celles qu'on montre. On aurait pu en montrer beaucoup d'autres, y compris donc de la part de gens pour qui la psychanalyse, ça leur est équilatéral. Ils s'en moquent comme de l'an 40. Mais les œuvres elles-mêmes parlent de quelque chose.
Lacan, l'exposition se visite au Centre Pompidou à Metz jusqu'au 27 mai et elle est accompagnée d'un catalogue publié aux éditions Gallimard.
Suite du Grand Tour demain, Marie Sorbier, où serez-vous ?
Demain, Arnaud, je serai à Pantin pour le grand rendez-vous avec le Japon contemporain. Ça s'appelle Tokyozai.
Merci Marie, à demain. Cette émission, comme toutes celles de la chaîne, est à écouter ou podcaster sur le site de France Culture ou via l'application Radio France. Émission préparée avec Boris Pinault, Anouk Minaudier, Jules Barbier, Marceau Bassi, Lise Ripoche et Bérénice Oursourigaray.